pour eux, aujourd'hui, dans la vision qu'ils ont, c'est que le transport ferroviaire, il transporte des gens qu'ils ne devraient pas transporter. C'est-à-dire que nous tous, là, on n'aurait rien à faire dans les trains. La vision qu'a ce gouvernement-là, c'est que le train, il doit servir au business. Donc c'est le fameux tout TGV. Nous, les classes business que fait la SNCF, les offres commerciales que fait, elles vont avant tout vers ces gens-là, vers ceux qui utilisent le train pour leur travail, la tablette, le Wi-Fi, pouvoir bosser dans le train, voilà, pas perdre de temps. Mais la famille, c'est pas, là on n'est plus sur une notion de service public, la famille, c'est pas sa place dans le train. Quand nous, on dit que c'est important d'avoir un trajet direct, par exemple, entre Paris et Limoges ou Brive et ainsi de suite. Alors que pendant des années, on nous a dit, mais Paris, on peut très bien le faire par Poitiers. Et vous changez à Poitiers, vous prenez un TGV. Sauf que quand vous avez, ou même d'ailleurs des petites gares, on peut citer Saint-Sulpice-Laurière, on peut citer La Souterraine, ils nous disent, mais vous descendez à Limoges et après vous reprenez un TER et vous remontez sur Saint-Sulpice ou La Souterraine, ou vous descendez à Châteauroux et vous finissez par un TER. Mais quand vous êtes en famille, avec des enfants ou avec des personnes un peu plus âgées, qu'il faut descendre d'un train, récupérer, savoir où aller pour si c'est pas sur le même quai, c'est un peu angoissant quand même. Et puis c'est pas forcément. Et puis c'est quand on peut faire du train direct sans faire des horaires à la rallonge, parce que la SNCF sait faire, on fait pas. On fait pas parce que ça intéresse pas. Il n'y a pas de marge financière à se faire là-dessus. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on conteste, nous. Et donc c'est aussi cette bataille idéologique qu'il y a.
Jean-Marc Lahouze,
CGT Cheminots, Limoges. Je vous invite à regarder ce qui est sorti au début de la semaine. Le Oxfam qui a sorti donc un travail qui leur a pris pratiquement un an sur la richesse produite en France entre 2009 et 2008. Donc 2009, hein, lendemain de la crise où toutes les entreprises étaient soi-disant à la gorge. 407 milliards de versés aux entreprises, essentiellement les CAC 40. Donc 407 milliards de richesses produites. 67% versés aux 67% versés aux actionnaires. Seulement 27% vont à la recherche et développement et 5% vont aux salariés qui produisent les richesses. C'est du jamais vu. On est le leader mondial en termes de déséquilibre entre le partage des richesses en France. Alors quand on a un président de la SNCF qui dit « Moi, je ne suis pas le Père Noël et je ne peux pas faire le pognon », là, pour le coup, il y a moyen de retrouver quand même un certain équilibre. Et pour l'entreprise SNCF, c'est valable, mais aussi, donc nous, on a écrit avec le comité de défense de services publics Mont et Barrage un 4 pages qui vous a été distribué ce matin, parce que la SNCF, toute seule, c'est tous les services publics aujourd'hui. La question de l'EHPAD, vous en avez un, c'est un vrai problème aujourd'hui. Les salariés sont en souffrance à l'intérieur, les patients qui sont dedans, c'est inhumain. Là aussi, il n'y a pas de prise en compte. Et en plus, maintenant, c'est pratiquement du libre marché, ça aussi. C'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on fasse du pognon, autant de pognon, sur la vieillesse ou la dépendance de nos aînés. C'est une société qui se veut moderne et tout ça, ça ne peut pas être ça, quoi. Quand on nous dit la Poste, elle transporte moins de courriers, donc elle est en déficit. Par contre, la part Colissimo, la part bancaire, tout ce qui a été éclaté parce que ça a été multiplié en différentes entités, ça a explosé ces dernières années. Et ce pognon, il va où? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il sert à quoi? Nous, la SNCF, par contre, pour revenir à l'entreprise, nous, on génère aussi de l'argent. Par contre, la SNCF, elle ne le réinvestit pas sur le territoire. Nous, on investit partout, dans tout et n'importe quoi. On a des compagnies de bus à Jérusalem, on a des trains fret aux États-Unis. D'ailleurs, ça ne marche pas, mais on éponge. En France, on a une compagnie 8 bus. Alors là, pour le coup, maintenant, son chiffre d'affaires va peut-être remonter, là, parce qu'avec avec nos grèves, aujourd'hui, ils remplissent les bus. Mais 8 bus, il faut savoir qu'on recapitalise tous les ans 8 bus parce que c'est déficitaire. C'est la troisième année que cette compagnie elle existe. Elle a démarré avec un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros. À chaque fois, on a remis 50 millions parce qu'elle est déficitaire. Et vous avez les trains intercités sur Limoges qui sont soi-disant déficitaires à 300 millions d'euros. Mais faut, après, il faut regarder pourquoi. Parce que si on prend que l'axe POLT, nous, on avait intercepté un document avec les week-ends coup de poing sur les travaux. Parce que nous aussi, là, ils sont en train de nous réinventer le chemin de fer. On ne sait plus faire les travaux, nous, les cheminots. Avant, on savait faire des travaux quand les trains roulaient. Aujourd'hui, il faut arrêter pendant 4 jours les trains pour pouvoir faire des travaux. Et en plus, ils nous les font faire de nuit, alors que les trains ne roulent pas le jour. Donc, vous voyez à peu près où ils en sont quand même dans la réflexion. Donc, on a vraiment une perte de savoir. Eh bien, ils ont estimé à ce qu'il y ait à peu près... alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à peu près à 13 000 voyageurs perdus définitivement sur l'axe. C'est que ces week-ends coup de poing. Donc, les gens, par cette politique, ne prennent plus le train. Donc, effectivement, ça a une incidence sur les chiffres d'affaires, forcément. Donc, voilà, toute cette... c'est la fameuse expression quand vous voulez dire que votre chien a la rage... j'ai perdu le... merci.
On a compris.
On en est là. Nous, pour vider les trains, aujourd'hui, ce qu'on vous disait au début, c'est qu'ils mettent des horaires inadaptés. Donc, nous, on est là. On veut recenser vos besoins parce que, de toute façon, les services publics, c'est la réponse aux besoins des populations. Donc, nous, les cheminots, on a, au-delà du combat avec les salariés qu'on représente, sur nos emplois, sur tout ça, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est attaché à notre service public, on est attaché à nos métiers, et on n'admet pas aujourd'hui qu'on nous le démonte et qu'on nous le vole. Parce que, quelque part, on nous le vole. Demain, en plus, sur l'ouverture à la concurrence, il faut expliquer aux gens qu'ici, sur nos territoires, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que dans les appels d'offres qui vont être faits, il y aura un transporteur qui prendra l'appel d'offres, mais vous aurez un seul train, vous n'aurez pas deux trains qui partiront à la même heure à Limoges. Hein. Vous n'aurez pas l'ADB d'un côté sur le quai 1 et la SNCF peut-être sur le quai 2, c'est faux ça. Ça par contre, c'est ce qu'ils veulent, ça, ce système-là n'existerait peut-être que pour le TGV. Où effectivement il y aurait une vraie concurrence libre, pas non faussée, hein, mais une vraie concurrence acharnée donc sur les TGV. Mais par contre, sur tout le reste du territoire, ce sera une seule et même compagnie, et ce sera les conseils régionaux ou peut-être l'État qui aura passé un marché avec eux. Voilà, c'est d'ailleurs, dans d'autres cas, c'est bien souvent comme ça. Quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça,
vous pouvez peut-être rajouter un petit mot,
ouais, bien sûr.
Pour me présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le maire de Sainte-Anne-Saint-Prié. Une petite commune du canton des Moutiers, et je fais partie aussi du comité de défense des services publics, parce que je pense que nous, les maires, on est les premiers concernés par rapport à la désertification de nos zones rurales. Nos petites communes ont besoin d'habitants, ils ont besoin d'avoir aussi des services publics. Et plus ça va, plus les services publics... sont abandonnés par l'État, sont abandonnés par les autres services publics, je pense à la région. Et aujourd'hui, faire revenir des habitants dans nos communes, c'est aussi exiger qu'il y ait des services publics qui soient, qui les accompagnent, qui soient là. Tout à l'heure, dans l'intervention du cheminot, il a cité plusieurs exemples sur les EHPAD, mais on peut en rajouter d'autres. Ce que je disais tout à l'heure, la poste, l'hôpital, les écoles, finances publiques, Orange, quand on a vu le passage de France Télécom qui était un service public à Orange aujourd'hui, essayez-vous de demander un service à Orange, vous verrez que vous tomberez sur des boîtes vocales. Il n'y a plus du tout de service, et je pense que ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui la politique qui est menée par ce gouvernement, c'est l'abandon vraiment des services publics, mais alors, pas seulement de l'abandonner, mais de le donner au privé de façon à ce que le privé fasse de l'argent. Donc c'est la même politique qui est menée concernant prendre dans la poche des moins riches pour donner dans la poche des plus riches. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai ce qu'on dit par rapport aux actionnaires. Ils ont de plus en plus ils ont de plus en plus d'argent et les gens qui travaillent en ont de moins en moins. Et je pense que c'est une vraie inquiétude. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui défendent le service public et notamment le soutien aux cheminots. Voilà ce que je voulais juste rajouter.
Le TGV 740 arrivé 18h11 en provenance de Grenoble. Lyon Part-Dieu entre en gare sur la voie M. Le TGV 740 arrivé 18h11 en provenance de Grenoble. Lyon Part-Dieu entre en gare sur la voie M.
Donc on a organisé ce qu'on appelle une vote action de manière unitaire pour que les cheminots s'expriment. Il n'y a qu'une seule question, hein, c'est êtes-vous pour ou contre la réforme proposée par le gouvernement. Donc sur la région, mais globalement au plan national, il y a une très forte implication de tous les salariés, tous collèges confondus, parce qu'il faut savoir aussi que l'encadrement donc, qui reçoit une pression assez forte de la part de la direction de l'entreprise pour leur demander notamment là, de ne pas participer au vote, et y compris quand nous on rentre avec nos urnes dans les gares, dans les choses comme ça, de nous mettre dehors. Et aujourd'hui, on a une rébellion de l'encadrement, alors qui n'est pas forcément visible sur les piquets de grève ou les choses comme ça, mais par contre, ou sur la participation, ils participent fortement au vote, à cette consultation. Donc ça, c'est déjà quelque part une épine dans le pied à Pépi. D'ailleurs, cette votation, il n'en voulait pas, parce qu'au départ, on lui avait proposé de l'organiser lui-même. Puisque maintenant, avec la loi travail, les référendums peuvent être organisés en entreprise. Sauf qu'ils peuvent être organisés, mais que par une question posée par l'employeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on conteste. Donc aujourd'hui, de manière unitaire, on a décidé de l'organiser partout au plan national. En 3 jours, on a fait pratiquement 30 000 votes. On a réalisé 30 000 votes. On n'a pas encore. Et pour l'instant, très majoritairement, les cheminots s'expriment contre la réforme ferroviaire. On attendra lundi, puisque c'est lundi la clôture du vote au plan national. Mais bon, voilà, donc c'est important, parce qu'en plus, on est... alors, le président dit que ce ne sera pas légitime, parce qu'on ne contactera pas les 140 000 cheminots qui restent. Mais ça tenait qu'à lui qu'il nous donne les moyens pour qu'on le fasse. Hein. Après, je pense qu'il ne voulait pas qu'il y ait un parallèle qui soit fait entre Air France et ce vote action, où on lui demanderait peut-être de partir. Après, nous... nous, c'est pas sa tête qu'on veut. Nous, on n'est pas attaché au. Nous, ce qu'on veut, c'est une autre entreprise. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est. Après, par contre, qu'on s'étonne quand même, c'est qu'un président de la SNCF soit encore à la tête d'une entreprise comme celle-là, avec un bilan aussi catastrophique que le sien. Hein ? Hier, on a entendu dans les médias qu'on était accusé d'actes de malveillance parce que, soi-disant, il y aurait des grévistes qui auraient coupé une caténaire dans l'Ouest, qui seraient descendus sur les voies, et ainsi de suite. Mais les actes de malveillance, notre direction SNCF, elle en fait régulièrement. La panne à Montparnasse, qui a fait tant débat l'année dernière, c'est vraiment un acte de malveillance de la direction. Parce que c'est elle à tout prix, en sachant que ça ne serait pas prêt, qu'elle a remis en service parce qu'on avait derrière... un actionnaire privé qui s'appelle Vinci, puisque la ligne entre Tours et Bordeaux, elle est privée, qui a dit on impose cette date d'ouverture, et voilà. Mais il y a plein d'exemples. Les caténaires, l'été, il en tombe tous les 4 matins, malheureusement. Et ça, à qui on impute la cause ? Nous, c'est ça qui nous énerve. Et donc, les cheminots, très globalement, l'état d'esprit, alors, inquiet, parce qu'on a quand même un gouvernement qui ne veut pas discuter. Ou qui ne répond pas sur les sujets de fond. Après, on a des cheminots qui sont persuadés d'avoir raison, puisque même si on reçoit une multitude de communications internes, parce que ça fait quelques années qu'on nous dit qu'à chaque fois, en tant que salarié, on risque rien, on a droit, toutes nos garanties sont préservées, et ainsi de suite. Plus personne n'y croit dans l'entreprise. Hein. Enfin, très majoritairement, plus personne n'y croit. Et en plus ici, d'autant plus ici, où on sait que l'importance qu'ont les services publics en ruralité. Hein. Donc les cheminots, ils savent que, tout collège confondu, que s'il n'y a plus de circulation ferroviaire sur les petites lignes, il n'y a plus d'emploi à cheminots. Donc nous, aujourd'hui, on n'a plus de direction SNCF régionale. Hein. La direction, elle est à Bordeaux. Hein. Donc nous, nos décideurs, ils sont à Bordeaux. Nous, tous les jours, on se bat pour faire entendre la voix du Limousin dans l'organisation de la production. On a un directeur régional SNCF qui, l'année dernière, n'a pas hésité à la semaine de rentrée scolaire à supprimer une centaine de trains sur le Limousin pour garantir les trains au départ de Bordeaux. Ouais. Et là, quand on sait, toute la semaine de rentrée scolaire, c'est là où on va décider les parents, les enfants à prendre le train quand même. Et là, pour le coup, on avait quasiment tout supprimé. Quoi. J'exagère, pas tout, mais un bon tiers qui était supprimé. Et ils ont fait le choix, d'ailleurs, la réponse qu'il nous a donnée, et là, c'est pas acceptable de la part d'un représentant d'une entreprise publique, c'est de dire, moi, je préfère supprimer un train où il y a 40 personnes dedans et en assurer un où il y en a 160. Donc là, on n'est plus des citoyens pareils. C'est ce que tu revenais de dire, hein, c'est que, quelque part, Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à tout dans les métropoles. Alors, enfin, après, c'est sous certaines conditions, hein, parce que si on parle de la santé dans les métropoles, les services d'urgence et les choses comme ça, ils ont énormément de problèmes, ils sont hyper saturés. Et après, dans les campagnes, il n'y a plus rien. Ou vous faites 60 km, hein, comme les maternités qui se battent pour garder, notamment dans Lyon, leur maternité. Sinon, il faut faire 60 km pour accoucher. Et là, on n'a plus une même position, il n'y a plus d'équité sur le territoire. Or, mine de rien, au lendemain de la guerre, sans faire le vieux combattant, mais au lendemain de la guerre quand même, tout ce qu'a porté le Conseil national de la résistance, et on sait ce que ça pèse ici, à Imoutier, le Conseil national de la résistance, ça nous a permis de développer une certaine équité entre les territoires, que ce soit ruraux ou urbains. Et ça, c'est ce qu'on est en train de nous renier aujourd'hui. Et on peut pas admettre, nous, qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, les moyens financiers.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière.
Quelle société on laisse à nos jeunes demain si tout s'en va à volo comme ça, quoi? S'il n'y a que le raisonnement, parce qu'on nous parle toujours de coûts, quoi. Bon, je ne parle jamais de recettes. Hein? Parce que nous, les services publics, ils en dégagent aussi. On a eu un Premier ministre qui a dit sur la santé, on ne fera pas de plan d'économie sur la santé. Et deux jours après, c'est sorti où il fallait supprimer 4000 lits par là et faire des économies à 2-3 millions d'euros. Le centre hospitalier de Limoges, le CHU, il est en passe de perdre son côté, son U, et donc son école, sa faculté de médecine et sa faculté pharmacie. Donc ça, c'est pas admissible. Aujourd'hui, on a des personnels partout qui sont en souffrance. On a vu ce que ça a donné aussi sur les ANPE. Quand on a privatisé, externalisé la recherche d'emploi, il y a combien de sociétés qui se sont créées pour dire on va faire de la formation privée, donnez-nous les dossiers. Il y a eu un scandale financier. Il y a eu un détournement de fonds publics parce qu'ils ont fait facturer des formations qui n'ont jamais eu lieu, des dossiers plus compliqués qui revenaient après à la NPE. C'est un peu comme les cliniques. Hein. Quand vous avez un petit bobo, ils vous soignent. Quand vous êtes c'est un peu plus compliqué, ils vous renvoient au CHU. Hein. Donc là, c'est exactement la même chose.
Hein. Je pense qu'il faut que le collectif passe à la vitesse supérieure.
Christian Reg, agriculteur et membre du collectif pour la défense et le développement des services publics de Monts et Barrages.
En direction des citoyens, parce que aujourd'hui, le temps presse pour conserver ce qu'on a comme service public et les développer dans le secteur. Et il faut que les citoyens rentrent dans la bataille, sinon nous filons mauvais coton, si j'ose dire. Comment ? Eh bien, par le contact avec les gens, discuter avec les gens. Par exemple, sur le problème de la SNCF, beaucoup de citoyens ne s'engagent pas, malgré qu'ils voient la pertinence du maintien d'une ligne de chemin de fer. Mais ils ne s'engagent pas parce que tous les jours, on leur serine que faut pas se battre pour les cheminots, que c'est des privilégiés. Ça ne tient pas parce que quand on s'attaque au statut des cheminots, en fait, c'est le statut dans l'ensemble des travailleurs qu'on vise. Parce que aujourd'hui, on va dégrader celui des cheminots, et demain, on dira, eh bien, vous voyez, on a dégradé celui des cheminots, mais il faut dégrader le vôtre, parce que vous êtes trop bien maintenant, les gars. Hein. Il va falloir... Donc, c'est l'éternel discours des gouvernements depuis 30 ans, qui, en fait, de compte, tantôt ils disent « vous êtes privilégiés », tantôt ils disent « vous êtes des archaïques », et en définitive, on casse ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire l'accès aux besoins fondamentaux des télécommunications, de la communication générale, de l'énergie, de la santé, du transport... Voilà la méthode qui est employée et voilà quelle forme nous devons avoir pour convaincre les citoyens. Ben, je crois que c'est un travail de terrain, de discussion, de proximité. La discussion simple entre deux citoyens. C'est comme ça qu'on fait avancer les idées. C'est un travail de longue haleine, mais je crois que celui-là, il est productif.
Tout ce qui marche, on le prend avec le privé. Tout ce qui est limite, on vous le laisse au niveau du public. Hein. Mais l'état d'esprit des cheminots, il est combatif. Après, ça pèse hein, quand même le conflit. Hein. En plus, nous, cette manière de se battre, on l'innove quelque part. Ce qu'on aimerait, c'est que après, ça vienne un peu autour, ça s'agrège. Parce que je pense qu'on a, globalement, alors tous en tant que salariés, retraités, eh ben, on a des points communs à revendiquer, que ce soit sur le niveau des pensions ou que ce soit sur le niveau des salaires, sur les choses comme ça. Et après, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas trop parlé, c'est sur l'environnement. Quelque part, on nous dit qu'il faut tout le temps qu'on se déplace un peu plus et qu'on, si on peut en plus le faire, ce serait par la route, ce serait mieux. Donc ça, c'est, là aussi, c'est quand même inadmissible. On peut parler aussi des autoroutes. Les autoroutes, quand on les a privatisées, ça rapportait 2 milliards d'euros par an à l'État. Et cet argent-là a été redistribué sur le ferroviaire, sur le maritime et sur l'aérien. Une fois que vous avez vendu, ça vous rapporte le premier coup, après c'est fini. Hein. Les aéroports de Paris là, qu'on est en train de vendre, c'est 800 millions par an que ça rapporte aujourd'hui, et c'est 8 milliards que ça va rapporter tout de suite. Mais une fois que vous l'avez vendu, hein, c'est fini. Hein. Les 8 milliards, les 800 millions que vous percevez tous les ans, vous ne les avez plus. Hein. Donc nous, on s'en est aperçu aussi ici, puisque pas très loin, on avait il y a quelques années un barrage hydroélectrique à Bord-les-Orgues qui appartenait à la SNCF, où donc la SNCF produisait elle-même son énergie. Et au moment de la libéralisation, la SNCF a tout privatisé, a donné à un groupe privé. Aujourd'hui, notre facture énergétique, elle est énorme. Nous, on paye la SNCF, ce qui quasiment nous coûtait pas grand-chose à l'époque, quoi. Sauf qu'il fallait investir pour rénover les barrages, donc la SNCF, elle a dit, moi, je fais pas. Donc, et voilà. Et donc, aujourd'hui, on paye cash, l'énergie.
Sur l'impact carbone, il y a une vraie... Nous, on a ici une vraie concrétisation, parce que on les voit passer, les camions ici de bois, que ce soit dans Émoutiers ou partout dans le secteur. Mais l'écart Macron, c'est la même chose sur l'impact carbone. Les camions qui sont conduits par deux chauffeurs, bien souvent qui viennent des pays de l'Est, qui sont exploités, surexploités, ils sont deux dans les camions, il y en a un qui dort et l'autre qui roule. Ce qui fait qu'ils ont... On a tout déconstruit. Ce qui était proposé par, à l'époque, un maire, un ministre qui avait proposé le ferroutage, c'est-à-dire de mettre tous les camions sur les rails, aujourd'hui, on a complètement déconstruit et abandonné ce service-là. Alors que c'est, si on voit l'impact carbone que ça a aujourd'hui sur la France, c'est à ça qu'il faut revenir. Il faut faire plus de ferroutage que de camions. On a de plus en plus de camions, on le voit sur la A20, on le voit... dans nos communes, on le voit moi-même, j'ai pris des interdits de circulation sur des voies communales, des camions qui ont des 50 tonnes à l'essieu. Souvenez-vous de ce qui s'était passé de la lutte des bonnets rouges. Est-ce que vous vous rappelez en Bretagne? Il y avait eu une action qui avait été menée contre les portiques de... Voilà. Vous vous souvenez de ça? Et les bonnets rouges se sont mobilisés en disant c'est un scandale de faire payer... les routes, de faire payer les routiers pour le passage sur les routes. Sauf que, en contrepartie, on a supprimé cette loi-là, on l'a supprimée, on a enlevé les portiques. D'ailleurs, le coût financier de la construction du portique et le coût financier pour les démonter, pareil, déjà ça. Mais en plus, on avait accordé à l'époque aux transporteurs un surtonnage à l'essieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, on ne l'a pas enlevé, ça n'a pas été enlevé. C'est moi, excusez-moi. On ne l'a pas enlevé, mais aujourd'hui, il existe toujours. Et c'est 50 tonnes à l'essieu. Maintenant, aujourd'hui, les camions sont autorisés à rouler avec plus de tonnage à l'essieu. Donc c'est un vrai problème, quoi.
La ligne a été refaite au niveau infrastructure voie. Le problème qui se pose sur cette ligne-là, c'est la partie signalisation. En fait, on est sur une signalisation qui est... un prototype des premières signalisations informatiques. Donc en fait, c'est une ligne qui est télécommandée depuis Limoges avec des PC qui datent de 93, 95 dans ces années-là. Aujourd'hui, en fait, le matériel informatique est obsolète. Donc il a servi de prototype. Derrière, ça a servi pour développer d'autres. Mais on ne peut pas le remplacer par les autres en faisant du remplacement comme ça. Et donc l'estimation aujourd'hui du prix de remplacement de cette informatique, c'est 20 millions d'euros. Avec SNCF Réseau qui dit on est capable de tenir jusqu'à fin 2021. fin 2021, l'informatique ne tiendra pas. Et puis même avant, on peut avoir des risques. Moi, je prends l'astreinte sur la signalisation sur la ligne. Quand il y a des gros coups d'orage, on n'est pas tranquille. Parce qu'en fait, on n'est pas certain de pouvoir remplacer tout le matériel. Quoi. Et donc, la problématique est là. Les 20 millions, c'est en discussion pour trouver une solution intermédiaire qui permettrait de réduire un peu le prix. Maintenant, même si on descend à 10 millions, est-ce que le conseil régional mettra l'argent? Puisque clairement, aujourd'hui, sur ces lignes-là, c'est le conseil régional qui doit financer. Alors nous, on n'est pas d'accord là-dessus parce qu'on considère que la péréquation doit se faire au niveau national. Alors, que le conseil régional, qui a une connaissance, on va dire, territoriale, oriente sur la politique des trains, etc. Oui, ça paraît cohérent. Par contre, c'est pas à lui de financer les lignes, et notamment des lignes où il peut y avoir du potentiel fret. Quoi. Il y a un moment, c'est pas du il n'y a pas que du TER qui roule sur les lignes ferroviaires. Là, on est sur un axe atlantique vers l'est de l'Europe. On pourrait très bien faire passer du fret ici depuis La Rochelle, quoi. S'il n'y avait pas la coupure au milieu. Mais voilà, donc il y a ces choses-là. Donc nous, on se bat là-dessus. Après, le conseil régional dit d'un côté, ben ouais, on n'a pas les sous pour payer, mais ils ont accepté il y a quelques temps le principe que SNCF Réseau et le gouvernement leur avaient imposé à l'époque de dire, ben, les petites lignes, vous les prenez, vous vous démerdez avec. Et aujourd'hui, ils sont bien emmerdés parce qu'ils n'ont pas l'argent. Clairement, il y a à peu près, je crois que c'est 250 millions. Pour le Limousin avec toutes ça, les lignes qui périclitent un peu à droite à gauche, faudrait 200 à 250 millions d'euros selon nos chiffrages pour pas qu'on ait des ralentissements, des fermetures, etc. Donc ça pose problème. Là, clairement, cette ligne-là, c'est 2021. S'il n'y a pas de travaux de signalisation de fait, ça ferme. Aujourd'hui, c'est annoncé et aussi bien les politiques régionaux que le transporteur TER, tout le monde est au courant. 2021, s'il n'y a pas de travaux de signalisation de fait avant, la ligne, il n'y a plus un train qui roule. Donc ça, on a ça. Puis après, il y en a d'autres ailleurs. On le voit en ce moment, il y a Limoges-Angoulême, il y a une partie qui est déjà fermée, qui devrait rouvrir normalement septembre. A priori, quand on discute un peu, ce serait plutôt mi-2019. Donc enfin, voilà, on habitue les gens à part de train. Sur Limoges-Poitiers, il y a 18 km de ralentissement, où c'est aussi des millions à lâcher. Et les craintes qu'on peut avoir, c'est que je pense que la région, si elle doit privilégier une région, une ligne, elle privilégiera sûrement plus Limoges-Poitiers que... la ligne du sel, et voilà, comme ils l'ont toujours fait, voilà. Donc ça, c'est des vrais problèmes aujourd'hui sur les investissements, et clairement aujourd'hui les élus ruraux ils voient bien la merde que ça va être et ce qu'il y a. Alors après, il y en a certains qui sont à moitié conseillers régionaux, à moitié élus, ceux-là sont pas toujours très clairs dans leurs propos, quoi. C'est en fonction de qui il y a en face, ça peut changer. Donc nous, dans ce cadre-là, on rencontre, je sais pas si tu l'as dit, demain matin on rencontre des élus régionaux à Limoges, et la semaine prochaine, le 24, il y a une manif régionale unitaire de tout Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour rencontrer Rousset et les décideurs, parce qu'il y a un moment, c'est bien joli, mais il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, quoi. Parce que sur Bordeaux, Rousset a lâché 130 millions, je crois, sur Pau-Bedouce, qui est une ligne où il a sa résidence secondaire. Sauf qu'aujourd'hui, si on fait le bilan du nombre de voyageurs dans les trains, il y en a moins qu'ici. Et là, c'est 130 millions. À côté de ça, on a fermé Nexon-Brive sur la partie centrale où il y avait besoin de 3 millions. Donc il y a un moment, il y a quelque chose qui nous gêne. On a Renaud Lagrave, qui est vice-président au transport, qui lui, il nous dit « Ouais, je suis bien emmerdé, il n'y a pas de sous pour le TER. » Bon, par contre, ça ne le dérange pas de continuer à demander sa LGV qui va jusqu'à chez lui à Mont-de-Marsan. Bon, il y a tout un tas d'incohérences comme ça où à un moment, c'est bien aussi de les rencontrer et de leur remettre un petit peu, de les mettre face à leurs contradictions là-dessus. Parce que bah, clairement, c'est l'utilisateur qui est au bout qui doit payer en fonction de ce qu'il y a, qu'il n'y a pas de péréquation, demain on paiera le kilowattheure d'électricité plus cher parce que la centrale électrique elle a 6 vaux et puis faut payer le fil jusque chez nous. L'hôpital c'est pareil, hein, quand l'hélico il vient ici, on sera payé plus cher la prestation hôpital, etc. etc. Et enfin, dans le délire, on peut aller loin comme ça. Donc voilà.
Sur nous, mais on ne fait pas un scénario catastrophe, hein, là. C'est vraiment aujourd'hui on en est à fermer des lignes, quoi, sur la région. Donc nous, on je sais pas si vous l'avez eu il y a quelques temps, on avait distribué un tract dans les trains ou dans les gares qui reprenait toutes les lignes avec le nombre de ralentissements. Alors les ralentissements, c'est quand vous avez on réduit la vitesse des trains parce que la voie est plus dégradée ou donc. Et on avait et donc avec des échéances où si rien n'est fait, il y a obligation d'arrêter les circulations. Hein. Donc on en a aussi bien dans le sud que dans le nord. Hein. Sur la Creuse, on a Busseau-Felletin, où pour tout prétexte aujourd'hui, elle est fermée régulièrement. Et s'il n'y a pas de travaux de fait à l'horizon à la fin 2019, elle est fermée. Donc on a cité Limoges, Brive par Saint-Thierry. On a les cités Limoges-Angoulême donc, où, qui est en difficulté. On a Limoges-Poitiers qui est fermé pour 3 mois. Dans le sud, on a Brive-Aurillac qui là aussi, si rien n'est fait, c'est 2019, début 2020. Là, on n'est plus. On vous livre pas un scénario version CGT catastrophique. Hein. Là, c'est ça y est, on y est, nous. Hein. Donc, là, pour le coup, on a vraiment besoin qu'il y ait des gens qui prennent leurs responsabilités. Et pour nous, la réforme, elle répond à rien. Quand le Premier ministre, un jour, au début, sur la réforme, disait c'est pas de Paris qu'on prendra les décisions, mais c'est pas non plus aux régions de se retrouver à se débrouiller toutes seules. Sans leur donner les moyens de faire. Et donc, effectivement, on lui dit, nous, on ne fermera pas de ligne. Lui, gouvernement. Mais par contre, c'est comme à chaque fois, quand il y a un bureau de poste qui ferme, c'est pas le gouvernement, mais c'est le maire qui est responsable d'assumer le mécontentement de ses concitoyens sur la fermeture d'un service public. Alors que, pourtant, au début, on a su le faire. Au début des années 2000, quand il y a eu la création des TER et la généralisation des TER, et nous, la région Limousin, on a été une région expérimentale au titre de la ruralité. On était une des 7 régions en France qui avaient créé la notion de TER. Il y a eu une dotation de l'État à l'époque. Il y a eu un transfert de moyens financiers qui avait été fait aux régions, avec la notion de péréquation et des choses comme ça. Et il y avait une clause de revoyure donc de ce transfert de moyens au milieu des années 2000, 2005, 2007. Mais bon, le gars, il s'appelait Sarkozy et il a oublié la clause de revoyure et il n'a jamais respecté ça. Et donc, de 2000 à fin 2010, les régions ont fait avec les mêmes moyens. En sachant qu'on a quand même renouvelé à l'époque quasiment plus de 50% le matériel roulant, qu'on a recréé des horaires, que tout le monde s'était accordé à dire qu'on avait regagné du monde dans les trains, qu'on avait passé le côté de la vieille Micheline qui crache de l'huile partout avec des horaires inadaptés, c'était fini. Parce que ça aussi, ce qu'on vit aujourd'hui, la SNCF, elle a toujours su le faire. C'est-à-dire que pour fermer une ligne, vous mettez un train qui n'est pas un horaire adapté et après vous dites, ah ben, y a personne dans le train, vous voyez bien, ça intéresse personne. Donc voilà, nous l'exemple le plus criant qu'on a, c'est sur Busseau-Felletin. Où ils nous disent on a doublé la circulation, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un aller-retour, on en a mis 2 dans la journée, sauf que le premier, il part à 9h de Guéret, et le soir, Felletin, le dernier, il part à 16h, donc je ne sais pas qui peut travailler dans cette période-là, ou même un scolaire, personne ne peut le prendre ce train, il y a une personne. Voilà. Donc effectivement, le bilan il sera catastrophique, vous avez multiplié par 2 l'offre, mais avec des horaires qui correspondent à personne. Donc voilà, on sait comment ils font quand ils veulent fermer quelque chose.
Hein. Et pour compléter, parce que là-dessus, il faut savoir qu'en fait, les régions ont demandé à SNCF Réseau de faire le diagnostic du réseau pour avoir quelque chose de... un document fiable pour prendre des décisions. Donc les éléments qu'on disait tout à l'heure sur la ligne, les 20 millions, etc., c'est repris dedans. Où en fait, par ligne, il y a une feuille recto-verso où on a une carte de la ligne, les flux de circulation, les coûts par train, etc., les investissements qu'il faut faire avec différents scénarios pour voir l'évolution, et si on ne fait pas les scénarios, les ralentissements ou les arrêts de circulation qu'on aura. Et en fait, ce document, il se termine à chaque fois par ligne, par un ratio coût d'investissement par voyageur. Pour vous donner une idée, sur Limoges-Angoulême, avant même que la ligne ferme là actuellement, on était à 800 euros par voyageur d'investissement. Parallèlement, sur Bordeaux-Arcachon, on est à 12 euros par voyageur. Voilà. Donc si on raisonne comme ça, c'est fini quoi. Mais c'est valable pour tout. Enfin, c'est plus la peine d'investir sur les routes, c'est plus... Enfin, dans des zones rurales, il n'y a plus rien. On ne peut pas raisonner comme ça. C'est complètement idiot comme raisonnement. En tout cas, c'est le document d'aide à la décision pour la région. Donc c'est quand même vachement inquiétant d'avoir ce genre de document. Et surtout, enfin, on ne peut pas raisonner en termes de services publics, d'aménagement du territoire, et quel que soit le domaine, que ce soit du ferroviaire ou autre chose, en faisant un ratio investissement voyageur pour de la zone rurale quoi. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que les élus régionaux, ou en tout cas SNCF Réseau, proposent aux élus régionaux de raisonner. Et ça, c'est hyper inquiétant. Donc nous, là-dessus, clairement, ben, on se bat, on dénonce les choses. Après, il faut avoir un truc en tête, c'est que les cheminots tout seuls, les élus tout seuls, n'y arriveront pas. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un élan de la population derrière. C'est que SNCF Mobilité est objectivée au nombre de trains kilomètres qu'elle fait, et pas au nombre de trains kilomètres voyageurs. Donc en fait, SNCF Mobilité, son but, c'est de faire rouler des trains sur les voies à moindre coût. Qu'il y ait des voyageurs ou non dedans, elle s'en fout. Aujourd'hui, la région, par rapport à ça, sur Busseau-Felletin, faut pas être dupe. Hein. c'est très bien aussi, et c'est une ligne, elle ne veut pas la fermer. Par contre, elle s'appuiera après sur les constats pour dire c'est pas la peine. Mais elle est d'accord là-dessus. Parce que quand on fait ça sur le bus au Feltin, en même temps, c'est le but, c'est qu'avant, il y avait un TER qui devait rester à Guéret dans la journée, sur une période où il n'y avait pas de besoin. Par contre, il était avant, il était mobilisé. Maintenant, celui-là, ils l'ont remis peut-être sur Limoges-Poitiers, ça permet de faire un train en plus sur Limoges-Poitiers. Puis à côté de ça, on fait rouler un train qui était stationné à Guéret normalement. Il roule, ça fait du kilomètre train. Pas cher parce qu'en fait, il n'y a que l'essence qu'on paye, parce que de toute façon, le conducteur, le contrôleur, il était en attente à un endroit parce qu'il n'y avait pas de besoin. Et donc, ils vendent en fait, on va dire, un prix kilomètre train moins cher sur le global.
Ah oui, oui.
C'est sur le global qu'il y a le raisonnement. Par contre, si on faisait le kilomètre train voyageur, là, ça change tout. Mais on n'est pas objectivé là-dessus. Qu'on fait rouler des trains vite, c'est pas un problème. Sauf qu'après, ils vont se baser... Non, mais c'est complètement con comme raisonnement. Après, ça là-dessus, on est tous d'accord. Mais en tout cas, c'est les règles aujourd'hui. Mais des règles cons, on en a chez nous, il y en a ailleurs. Hein. Ça, pas la brique. Enfin voilà, donc après, aujourd'hui, voilà, ça fait baisser artificiellement le prix. Puis après, on va nous dire, bah non, il n'y a pas de monde, il n'y a personne dans les... Sur Nexandrieu-Saint-Thierrier, en 2010, il y avait 6 correspondances par jour vers la gare de Limoges. Il faut savoir que la population intercité, c'est à peu près 30% de personnes qui venaient des trains TER pour prendre un intercité après, pour aller vers Paris ou Toulouse. Aujourd'hui, il n'y a plus une correspondance par jour de Saint-Thierrier vers Limoges. Ou alors, c'est des correspondances à attendre 3 heures à la gare de Limoges, quoi. C'est pas une correspondance. Et en fait, on en arrive là. Voilà, en l'espace de 8 ans, on a complètement décalé les horaires parce que sur la ligne, là, on a privilégié la ligne de Périgueux sur les trains. Donc Saint-Thierrier, parce qu'à un moment, il y a la ligne, il y a un tronçon commun. Et puis derrière, bah, on vide les trains. Les gens qui ont besoin de prendre un train pour Paris, bah, ils prennent leur voiture, ils vont à Nexon ou ils vont à Limoges directement. Et puis ben après, aujourd'hui, on nous dit ben oui, mais on va pas injecter de l'argent sur Nexandrieu parce que ben parce qu'il y a moins de monde dans les trains. Sauf que si on va plus loin dans le raisonnement, sur cette ligne-là, en fait, c'est deux lignes plus ou moins parallèles entre Brive et Limoges qui vont Nexandrieu et Uzerche. Il y a les deux lignes plus ou moins parallèles. En fait, la ligne d'Uzerche, elle dessert une population, si on prend la population des villes traversées par les gares, 16 000 habitants. De l'autre côté, on est à 25 000. Celle qu'on ferme, c'est celle où il y a un potentiel de 25 000. Alors après, on n'est pas dupe, hein, il n'y a pas 25 000 personnes qui vont prendre le train, etc. Mais ça, c'est une analyse que personne ne fait, quoi. Voilà, donc après, il y a tout un tas de choses comme ça. La ligne roule moins vite aussi, et des choses comme ça. Mais elle roule moins vite parce qu'on ne le veut pas. Historiquement, c'était la ligne, normalement, Paris-Toulouse, par Saint-Thierrier.
C'était l'axe historique.
Voilà. Bon, après aujourd'hui, voilà, le constat, il est fait. Maintenant, cette ligne-là, moi, j'ai peu d'espoir que le tronçon central rouvre. Hein. Et dans les projections, ce que je disais, le diagnostic réseau sur Limoges-Angoulême, les projections, c'est fermeture au milieu. Dans tous les scénarios, c'est fermeture au milieu et on fait que du Angoulême-Chabanais, je crois, d'un côté, et de l'autre côté, Limoges-Saint-Julien. Ça va même pas jusqu'à Saïa. Alors que ça, c'est une ligne, en plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une ligne où il y a du potentiel fret énorme sur cette ligne-là. On a deux carrières, on a deux usines, Saïa International Paper et Smurfit, où il y a un volume de camions phénoménal et c'est pas du train. Enfin, c'est des trajets qui sont facilement qu'on peut facilement mettre sur du train. Parce qu'après, il y a des choses où c'est plus compliqué en fonction du type de transport, si c'est jamais au même endroit, etc. Là, on n'est pas du tout là-dessus, c'est facile à faire. Donc, d'autant plus sur une ligne comme ça, c'est vraiment pas à la région de la payer et les investissements devraient être nationaux. Après, chacun se projette la balle, etc. Il faut savoir que sur cette ligne-là, quand la ligne LGV Sud Europe Atlantique a été faite, la Tour Bordeaux, il y a énormément de besoin de ballast, il y a 300 km de ligne, il faut un peu de cailloux pour y faire. Hein. Le caillou, il sortait notamment des carrières de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne. Plutôt que de prendre la ligne directement Verneuil vers Angoulême, on le faisait revenir à Limoges, Limoges-Périgueux, Périgueux-Coutras, Coutras vers le nord. Parce qu'en fait, l'état de la voie entre Verneuil et Angoulême n'était pas assez en bon état. En fait, si on avait fait passer du fret là-dessus, au bout d'un moment, les rails se seraient écartés, le train serait tombé entre les rails. Mais on en arrive à des délires comme ça. Alors que sur le volume d'argent injecté sur le Bordeaux-Tours, sur une nouvelle ligne à grande vitesse, on peut prendre 2% ou 1% pour remettre en état la petite ligne pour alimenter l'autre. Hein. Et même encore, hein, quand je dis 1 ou 2%, à mon avis, on fait large avec 1 ou 2%, parce que le prix d'une LGV, c'est loin d'une remise en état d'un bout de ligne. Donc on est sur des choses complètement délirantes comme ça. Après, avec des élus régionaux qui nous disent ben oui, il n'y a pas d'argent, etc. Alors de l'argent, il y en a toujours, il faut aller le chercher où il est, mais bon. Mais par contre, ça ne les dérange pas. Quand il s'agit de faire une LGV pour venir chez eux, là, il y a de l'argent. Ça, il faut avoir ça en tête. Hein.
Après, ça me fait penser à une chose, c'est sur la... Demain, si la réforme voit le jour et qu'on crée des sociétés anonymes au niveau du chemin de fer, ou qu'on divise notre région en plusieurs lots. Donc, il parlait d'objectifs financiers. Il faut savoir que chacune aura son objectif financier. Et personne regardera ce que fait l'autre d'à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maillage ferroviaire, parce que nous, on parle de maillage ferroviaire, la notion de maillage ferroviaire, elle n'existera plus. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus aller d'un point A à un point B, sauf si s'il y a une correspondance, c'est mort. Cette notion de correspondance n'existera plus. C'est-à-dire que chacun répondra à ses propres critères financiers, et donc il n'y aura plus l'idée qu'on puisse aller d'Emoutier à Lille avec une correspondance à Limoges ou à Paris-Gare de Paris-Nord. Ça, c'est plus possible. Ça ne sera plus possible. Sauf à mettre la journée pour le faire et à être patient. Alors maintenant, on a des vélos pour recharger vos téléphones. Il y a plein d'occupations dans les gares. Hein, vous avez le buffet de la gare, il a fermé à Limoges. Donc là, déjà, ça vous fait un truc en moins. Mais donc voilà. Donc cette notion-là, où de pouvoir aller partout sur le territoire, parce que le fait d'avoir une seule compagnie permet ça. Enfin, permettait, parce que même si aujourd'hui la SNCF le met à mal, demain, avec un vrai outil de service public, on fait ça. C'est-à-dire, si vous regardez, des fois je suis un peu nostalgique et on en parlait tout à l'heure avec un camarade, vous regardez des fois dans les vieilles gares, il y a des vieilles affiches où vous pouviez aller partout avant en France avec vous tirez le trait, ça vous donnait toutes les correspondances. C'était il y a 30 ans, quoi. Et aujourd'hui, voilà, on nous dit qu'on n'est plus capable de le faire. Donc ça pose un réel problème, quoi. Et demain, avec la réforme, ce sera encore pire. Ce sera vraiment pire, puisque là, tout le monde sera vraiment à regarder son propre périmètre sans regarder ce qui se passe à côté, en disant « c'est pas mon rôle ». Et l'État nous dit on pourra sanctuariser des choses. Sur la région, on sait ce que ça veut dire, sanctuariser les choses. Les trains de nuit, au plan national, ils ont été supprimés. Il en reste deux lignes, dont une qui est Paris, Limoges, Cerbère. Elle était sanctuarisée, on ne devait pas y toucher. Aujourd'hui, au nom de tous les travaux, il roule quasiment jamais ce train. Ils nous l'ont même fait passer par... Ils nous l'ont fait passer par Bordeaux. On avait essayé de le faire passer notamment par Coutras pendant la période de travaux pour qu'il soit maintenu. Il n'y a rien eu à faire. Ils nous ont toujours mis une épine sur le pied. C'est même nous qui avions calculé les horaires et les choses comme ça pour que ça passe avec le personnel dans les gares. Parce que la SNCF ne voulait pas le faire. Alors que c'était soi-disant sanctuarisé par l'État et contractualisé sur un papier. C'est là où aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué, la confiance et le dialogue, parce qu'on nous parle toujours de dialogue social, mais le dialogue social dans ce pays, quand vous prenez un coup de matraque sur la tête, c'est un peu compliqué, quoi. Et quand on vous dit que quand vous descendez sur les voies, c'est un acte de malveillance, mais tant qu'on peut y descendre, c'est qu'il y a des voies, mais voilà.
Pourquoi ? La chance de ce secteur-là, c'est d'avoir une gare ici, en centre-ville, qui dessert un territoire de la montagne où tout le monde aujourd'hui, et notamment la population, les jeunes étudiants, jeunes collégiens, les personnes à mobilité réduite, les gens qui n'ont pas de voiture, on vient à la gare, on prend le train et on va à Limoges ou ailleurs, comme vous l'indiquiez précédemment. Cette chance extraordinaire d'avoir une gare en ville, d'avoir une voie ferrée qui dessert aujourd'hui cette zone-là, elle est extraordinaire. Et c'est, je dirais, très regrettable.
Je regrette énormément
que mes collègues élus de tout le secteur, mes anciens collègues, ne soient pas présents aujourd'hui. Pour en avoir rencontré pendant une très longue période de nombreux, quand je vois la bataille qu'il fallait mener pour leur faire prendre une délibération, il fallait discuter pendant 30 minutes pour faire prendre une délibération ou faire organiser par un conseil municipal un débat sur le ferroviaire. Alors que c'est quelque chose de simple. On accueille des gens qui ont des compétences et qui connaissent, quelles que soient d'ailleurs les organisations syndicales. Et la CGT est là aujourd'hui et il faut la saluer dans son action. Mais plein d'autres peuvent s'exprimer sur le volet ferroviaire. Moi, j'ai eu la chance d'être cheminot pendant 37 ans de ma vie. Je le connais un petit peu. Aujourd'hui, je suis, un peu abattu, puisque nous, on a un échec sur la haute montagne, notamment sur Ussel. On est complètement en échec, puisqu'on n'a jamais pu convaincre. La dernière réunion qu'on avait faite à Ussel, on était quatre. Voilà. Alors, quand je vois la bataille qu'il faut mener pour ramener des élus ici, je considère que c'est catastrophique. Alors que finalement, en plus ici, cette voie ferrée, elle a bénéficié, comme tu l'indiquais tout à l'heure, de travaux très importants. Sur les 10 ou 15 dernières années, on a posé 100 millions d'euros pratiquement sur la voie ferrée ici. Hein. Alors, les collègues cheminots connaissent bien la situation aujourd'hui. Moi, je suis bien dépassé maintenant. Mais il y a de nouveaux travaux et de nouveaux investissements qui sont nécessaires pour maintenir cette voie ferrée. Hein. Et la qualité des correspondances dont vous parliez tout à l'heure aujourd'hui. Dès que vous avez un décalage entre le TER et un train pour Paris, ou un train pour Poitiers, ou un train pour Toulouse, dès que vous avez un décalage de plus d'une heure, la tentation est grande, on prend la voiture, on va à Limoges. Hein. Et le TER, il plonge. Alors que là, la qualité des correspondances, on se bagarre pour des correspondances à 10, 15 minutes. Hein. Faire du quai à quai, comme vous savez très bien le faire, mes collègues, hein, comme on faisait à l'époque. Hein. Les voyageurs, ils étaient pris en charge complètement. On leur assurait des garanties de voyage. Hein. Quand vous achetez un billet de chemin de fer, vous avez un contrat. On doit vous assurer que ce contrat vous amènera jusqu'au bout. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma. Vous m'excusez, les amis, c'est pas bon pour mon cœur.
Alors après, ce qui fait beaucoup débat, c'est la dette de la SNCF. Voilà, la dette de la SNCF, c'est 50 milliards d'euros, 46 exactement. À qui est la dette? Donc depuis 1997, la dette, elle a été reconnue comme étant celle de l'État. Puisque c'est toutes les lignes à grande vitesse qui ont été construites, pour lesquelles l'État n'a pas financé. C'est un peu comme si vous faisiez construire une maison, et que vous dites à vos pavillonneurs, je te paye pas, par contre je vais l'utiliser, mais je te paye pas. Ben nous c'est pareil, donc on a payé les lignes sur nos fonds propres, on s'est endetté, l'entreprise SNCF, l'entreprise publique, s'est endettée pour créer les lignes à grande vitesse, et y compris même au début des années 80, les taux d'intérêt, vous les connaissez pour les plus anciens, c'était du 13-17%, donc on a emprunté fortement. Aujourd'hui c'est plus le cas. Donc aujourd'hui le gouvernement il dit quoi? Il dit on est prêt à reprendre la dette de manière substantielle. Substantielle, on ne sait pas ce que c'est. C'est quand même dommage parce que ça fait des mois, ça fait depuis 2012, depuis le gouvernement Sarkozy qui nous disent qu'ils vont reformer la SNCF, qu'ils vont reprendre la dette. Et depuis 2012, il n'y en a encore pas un qui est capable de nous dire à quelle hauteur ils vont reprendre la dette. Donc à chaque fois qu'ils nous ont dit on reprend la dette, deux mois ou un an après, ils nous ont dit on abandonne, on ne reprend pas la dette. Donc la SNCF, rien qu'en taux d'intérêt bancaire, elle paye 2,5 milliards de taux d'intérêt bancaire à la caisse de consignation et dépôt, donc par an. Et ça ne fait qu'augmenter puisque ça couvre pas, on couvre pas le... Donc aujourd'hui elle est de 46 milliards d'euros, à l'horizon 2025 si rien n'est fait c'est 65 milliards d'euros.
Et est-ce que cette dette, c'est une question que je pose, elle n'est pas due en grande partie à la politique du tout TGV?
Ben c'est ça, c'est ce qu'on disait, voilà. C'est que voilà. Y a eu la construction des lignes, voilà, qui a fait que personne n'a payé. Donc aujourd'hui, c'est sur les fonds propres de l'entreprise que ces lignes ont été créées. Donc ça, c'est un vrai problème, mais sauf que maintenant, aujourd'hui, on se trimballe la dette. Ce que nous aussi, on peut accepter, c'est que la dette pure à la SNCF, elle est de l'ordre de 8 milliards d'euros. Mais après, une grande entreprise comme la SNCF et comme les autres entreprises, avoir de la dette, alors, c'est de l'investissement des fois. Donc les 8 milliards, c'est pas méchant. Quoi. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres milliards, des 38 qui restent. Alors c'est là-dessus. Et donc l'État dit, on veut peut-être en reprendre une vingtaine de milliards. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même que les cheminots fassent en contrepartie un effort de productivité et acceptent de passer en société anonyme. Alors si on passe en société anonyme, avec une vingtaine de milliards d'euros qui nous restent sur le dos à payer, aujourd'hui quand vous êtes une entreprise comme la SNCF en statut EPIC, donc établissement public à intérêt commercial, vous avez la garantie de l'État et donc vous avez des taux d'intérêt, de taux de remboursement qui sont à 1%, comme n'importe quel organisme public. Demain, on passe en société anonyme, vous n'avez plus de garantie de l'État. Donc vous redevenez n'importe qui et vous avez des taux d'intérêt à rembourser qui vont être à 3 ou 4%. Donc 20 milliards à 3 ou 4%, ça veut dire qu'on va se retrouver à payer la même chose que quand on a les 50 milliards aujourd'hui. Christian, tu voulais peut-être...
Vous avez parlé tout à l'heure qu'il était important d'agréger les forces autour de votre mouvement pour le faire, pour qu'il ait une chance de réussite, qu'il soit enfin entendu. C'est vrai que le collectif tel qu'on l'avait fait mériterait d'être plus actif. d'aller plus vers les populations pour faire un récapitulatif de tous les besoins que nous avons en matière de services publics, en matière de besoins fondamentaux. Sans doute, nous pourrions travailler à ces choses-là. Et nous avons aussi beaucoup à travailler justement pour soutenir les mouvements qui existent, comme celui des cheminots actuellement, de mener une campagne envers les citoyens pour bien montrer la dangerosité des transformations de tous les établissements publics en sociétés anonymes, parce que on nous certifie toujours que on va changer, on va le mettre en société anonyme, mais que ça sera toujours des capitaux publics. Mais on a beaucoup d'expériences qui montrent le contraire. Paul Quillès, en 90, avait dit les PTT, c'est un bien le plus précieux que nous avons, ça ne change, ça ne deviendra jamais service, société anonyme, France Télécom, etc. Nous en avons la démonstration. Sarkozy, pour EDF, avait dit jamais EDF ne sera privatisé. Madame Lagarde avait dit, lorsqu'il y avait eu le changement de statut de la Poste, c'est impossible que ce sera sanctuarisé. Donc aujourd'hui, quand nous avons distribué notre tract, nous avons vu certaines personnes qui nous disaient, mais ne vous inquiétez pas, le ministre dit, le président de la République dit, la SNCF ne sera jamais privatisée. Comment les croire? Comment croire aujourd'hui baliverne pareil, alors que l'on sait, la seule façon de les croire, c'est de conserver le statut tel qu'on l'a. Là, au moins, nous ne serons pas bernés. Sinon, toutes les autres formules, les filiales privées, etc., nous avons aucune chance de savoir ce que nous avons. Avec le temps, nous serons bernés. Ensuite, je veux dire, au-delà de cette question, il faut davantage, sans doute que les collectifs doivent avoir davantage être présents auprès de la population, chose que nous avons sans doute pas fait du fait de la faiblesse de nos moyens, sans doute qu'il faudrait aujourd'hui réactiver ces choses-là.
On a appris par l'UD de Limoges que la trésorerie de Châteauneuf-la-Forêt allait fermer. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais je pense qu'il va falloir les services publics s'en occuper et vite, à mon avis, parce que c'est dans un état catastrophique, moi je dirais. Que ce soit les cheminots, les impôts et tout. Alors, et maintenant la trésorerie. Et bientôt, je pense que la trésorerie des Moutiers, ça se trouve, un jour on dira, hop, on n'en a plus besoin, allez hop, allez voir à Limoges, et puis voilà.
Quand on rencontre la ministre des Transports, elle nous dit clairement, nous, vous, la CGT, on sait ce que vous voulez. Mais ce modèle de société, nous, on ne le veut pas. Ce modèle du chemin de fer pour tous, on ne le veut pas. Donc vous, on sait, on ne veut pas vous entendre. Donc nous, on a publié, il y en a là, un journal, ce qui s'appelle la Vraie Info, pour donner aussi cette contre-vérité qui vous est diffusée, qui nous est diffusée à tous, hein, sur toutes les chaînes, y compris sur l'obligation qu'aurait la France à répondre à l'ouverture à la concurrence. C'est l'Europe qui nous l'imposerait. Or, il y a un article de loi dans le quatrième paquet ferroviaire, l'article 5, qui dit que ça reste aux États membres de définir ou non l'ouverture à la concurrence. Et c'est tellement vrai que sur l'Île-de-France, dans le projet de réforme du ferroviaire, le gouvernement, il ne parle de l'ouverture à la concurrence sur l'Île-de-France qu'à l'horizon 2033 ou 2039. En Belgique, le gouvernement belge a évoqué le fait que il réfléchissait à l'ouverture à la concurrence, mais pas avant 2033. Parce qu'il y a des choses à faire avant. Alors, ça nous inquiète toujours, mais nous, par contre, on a un gouvernement qui dit on fait table rase, mais par contre, il n'y a rien de prêt. Y compris, on nous cite souvent l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un modèle où l'ouverture à la concurrence est là, ça marche bien, les trains sont à l'heure et tout ça. L'Allemagne, ils ont supprimé la dette du transport ferroviaire, enfin de la DB, à deux reprises, ils ont épongé 35 milliards d'euros. Mais ils l'ont fait dès les années 90. La SNCF, dans les années 90, elle avait une vingtaine de milliards d'euros. Ça aurait coûté beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. On parle de 50 milliards. Sauf qu'elle a toujours fui ses responsabilités. Hein, à chaque fois, c'était le passage à la monnaie unique. Il ne fallait pas un taux d'endettement de plus de 3%. C'était ainsi de suite. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on vous dit aussi, oui, mais vous rendez compte, si on fait ça, c'est le contribuable qui paye. Donc, on va tous être pénalisés. Sauf que nous, on fait une autre proposition. Nous, il y a un organisme d'État qui s'appelle la Caisse de Consignation et Dépôt qui peut reprendre la dette et l'étaler. Quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, que nombreuses communes se sont retrouvées endettées parce que, je me souviens plus, la banque, c'était Dexia, je crois, qui avait... Il a fallu reprendre tout ça et faire un calendrier pour... et donc, ça s'est fait. Et ben nous, on dit, voilà, ça s'est fait, on doit le refaire. Et puis après, quand on nous dit qu'il n'y a pas de pognon en France,